9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Rome en 133 avant Jésus-Christ. C'est la grande époque de la République romaine qui semble invincible. Il y a 10 ans, la République romaine a détruit son ennemi historique, Carthage. Il fallait que Carthage fût détruite, n'est-ce pas, Carthago est delenda. Tous les habitants ont été tués ou réduits en esclavage et la ville est en ruine et Rome a pu annexer tous les territoires de son vieil ennemi. Ce qui fait que, du coup, elle a doublé son territoire. On est encore loin de cet apogée que créeront un peu plus tard, au siècle suivant, Pompée et César, bien sûr. Mais la chute de Carthage, c'est le tournant, parce que Rome, désormais, est la seule grande puissance du monde connu. À l'heure où cette superpuissance est en train d'étendre son empire, gouvernant un territoire plus vaste que tous les précédents, la République, néanmoins, doit faire face à une grande crise. Quand je dis crise, c'est à la fois économique, politique et social, et tout ça lié en partie à l'annexion de ces riches régions d'ailleurs. En 133, il y a un jeune homme qui pense avoir la solution à cette crise. Il s'appelle Tiberius Sempronius Gracchus, je prononce à la française, et pour résoudre ces crises, Tiberius, ainsi allons nous l'appeler, vient de se faire élire tribun du peuple. Le tribun du peuple est élu pour un an et son devoir, c'est de défendre les droits de la plèbe. La plèbe, c'est-à-dire la population, si vous voulez, face aux patricias, c'est-à-dire les possédants, ceux qui tiennent le haut du pavé. La personne du tribun est inviolable. Personne ne peut le destituer. On ne peut pas toucher à un de ses cheveux. C'est très important d'avoir ça à l'esprit. Et il va donc représenter la multitude, la plèbe. Il ne siège pas au... On peut pas dire que les tribuns sont défendus, tous ces gens de la plèbe sont défendus par ce tribun qui donc est élu pour un an. Il a 29 ans, Tiberius. Il a bien l'intention d'user tous ses pouvoirs de tribun du peuple, pour essayer de réformer en profondeur cette république qui est justement en crise.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il faut peut-être que je vous le présente, ce Tiberius Gracchus. Ce Grac, d'où vient-il? Alors lui ne vient pas du tout de la plèbe. Il est plutôt de très très noble extraction. Il était de la puissante famille de Scipion l'Africain. Il en est même le petit-fils. Scipion l'Africain, c'est lui qui a battu Hannibal et qui a mis un terme à la deuxième guerre contre Carthage. On appelle ça les guerres puniques. C'était 70 ans plus tôt. Tiberius d'abord a été questeur dès l'âge de 25 ans. Vous imaginez, il est de ceux qui était responsable du règlement des dépenses et de l'encaissement des recettes publiques. Et puis, un an plus tard, il a entamé une carrière militaire en Espagne et sauvé l'armée romaine du désastre. Il est le fils d'une personnalité très importante à Rome, la fameuse Cornelia. Et voici ce que nous dit Isaac Asimov, mais oui, le grand Asimov, qui a écrit Une République romaine en 1966, ouvrage actuellement réédité par Les Belles Lettres. Cornelia était exagérément fière de ses deux fils. Un jour qu'une autre matrone romaine, venue lui rendre visite, lui montrait ses bijoux et demandait à voir les siens, Cornelia appela ses deux fils auprès d'elle et elle dit « Les voilà, mes bijoux ». Les Gracques avaient une sœur, Sempronia, qui serait mariée à Scipion le Jeune, et c'est donc l'aîné des Gracques, Tiberius, qui, après avoir battu dans les légions romaines, est donc devenu questeur. On est en 135, à ce moment-là, avant Jésus-Christ. La République connaît cette grande expansion qui est en train de complètement de bouleverser son paysage intime, et notamment social. Les nouvelles terres sont concentrées entre les mains des gens très puissants, avec beaucoup d'esclaves qui y travaillent, et c'est accroissement des terres agricoles, forcément, va faire chuter les prix des denrées et le recours aux esclaves va raréfier le travail et pousser dans la misère un certain nombre de gens de la plèbe et notamment les anciens soldats puisque maintenant ils n'ont plus de travail étant donné que la conquête est terminée, ils n'ont plus non plus de terres à cultiver. Au moment où il quitte l'Espagne pour retourner à Rome, Tiberius a sous les yeux cette misère dans toutes ces grandes provinces. Il voit ses anciens soldats qui sont là maintenant dans l'indigence. Et voici ce que l'immense Plutarque, on peut difficilement parler de tout ça sans citer Plutarque, évidemment. Voici ce que Plutarque nous dit à propos de Tiberius. Lorsque Tiberius traverse l'Étrurie, voyant le pays désert et que les laboureurs et les éleveurs n'étaient que des étrangers et des barbares, il n'eut pour la première fois l'idée, il eut pour la première fois l'idée de la politique qui fut pour eux tant de malheur. Parce que, oui, maintenant il va faire de la politique, Tibérius. Et évidemment, il va y laisser quelques plumes. Je cite Raphaël Dohan dans son ouvrage « Quand Rome inventait le populisme ». Il évoque Tibérius. Tibérius a compris, contrairement à beaucoup d'autres, que la question sociale ne peut plus être évitée. Et dans la Rome de cette époque, la question sociale, c'est la question agraire. Conscient de ce problème, Tibérius entreprend d'y trouver une solution. On peut spéculer sur ses motivations. Était-ce une réelle sollicitude pour ses compatriotes désœuvrés, un sentiment de justice sociale ou une manière efficace de nourrir son ambition personnelle? Le respect que son personnage inspira à la plupart des écrivains et historiens de l'Antiquité, même chez les adversaires des populistes comme Cicéron, tend à faire penser qu'il était animé de convictions véritables. Et au début de l'année 133, il se présente donc devant la plèbe pour être élu son tribun avec ce fameux discours « Les bêtes sauvages répandues dans l'Italie ont des tanières et des repères pour se retirer ». Et ceux qui combattent et meurent pour la défense de l'Italie n'ont d'autre bien sinon la lumière et l'air qu'ils respirent. Sans maison, sans établissement fixe, ils errent ça et là avec leurs femmes et leurs enfants. Les généraux leur mentent quand dans les batailles ils les exhortent à combattre pour leur tombeau et pour leur temple. Car entre tant de Romains, il n'en est pas un seul qui est ni un autel domestique ni un tombeau de ses ancêtres. Ils combattent et meurent uniquement pour soutenir le luxe et l'opulence d'autrui. Et on les appelle maîtres de l'univers alors qu'ils ne possèdent pas en propre une seule motte de terre. Ah, quand on tient ce genre de discours, il faut s'attendre à avoir contre soi toutes les élites d'une société qui n'a pas du tout l'intention de partager le gâteau. Tibérius est élu, il va tenter de mettre en place sa politique qui va marquer l'histoire de la République romaine, mais qui évidemment ne va pas s'installer sans de gros remous. Extrait de Belkis, Reine de Saba d'Ottorino Respighi par l'Orchestre Philharmonique de Londres sous la direction d'Alessandro Crudele.
Vous écoutez Radio Classique.
La politique défendue par l'aîné des frères Gracq ne plaît évidemment pas à tous ceux qui possèdent en vérité le territoire et les biens et les richesses de Rome. Tibérius a l'intention de réformer sur un plan agraire toute la situation. Il voudrait redistribuer les terres aux pauvres. Il voudrait leur donner de quoi vivre décemment. Et ça ne plaît pas aux élites romaines, bien sûr. De leur côté, elles estiment avoir pris des risques, avoir investi dans ces terres et n'ont pas l'intention de se les voir retirer. À partir de ce moment, c'est une lutte entre les grands propriétaires et la plèbe. Cette histoire-là, on la connaît dans bien des pays, à bien des époques, et on sait généralement comment ça finit. Jusqu'ici, les tribuns de la plèbe s'étaient toujours montrés assez conciliants avec le pouvoir. Ils évitaient de faire des vagues, comme on dit nous chez nous. Ils essayaient de trouver des compromis. Seulement, Tibérius est beaucoup plus combatif. Il ne se soucie pas de plaire au patricia, lui, même s'il est issu de ce patricia, vous l'aurez compris. Tibérius met en place sa réforme, c'est-à-dire qu'il donne un petit lopin de terre, 30 jugères aux membres de la plèbe romaine la plus pauvre. Il propose aussi de donner 500 jugères aux anciens soldats de l'armée romaine, à tous ceux qui ont combattu dans les dernières guerres et qui ont contribué, d'ailleurs, à la prospérité d'une Rome qui ne sait plus quoi faire de ses terres immenses. Tibérius propose de créer une commission qui s'occuperait de la distribution des terres aux nécessiteux. Seulement, le Sénat, évidemment, est très opposé à cette création de commission. Il considère la gestion du domaine public comme sa chasse gardée. Pas question, évidemment, d'aller dans le sens de Tibérius. Et pour l'empêcher, les membres conservateurs vont mandater un autre tribun afin de bloquer les réformes. Et c'est comme ça que Marcus Octavius va apposer son veto à toutes sortes de demandes de Tibérius. Tibérius a très bien compris ce qui est à l'œuvre, hein, et il va réaliser un coup de force qui, évidemment, va laisser des traces dans les annales romaines. Je cite de nouveau Raphaël Dohan. Il se produisit alors un événement jusque-là inouï. Tibérius proposa à la plèbe de déposer Marcus Octavius et, chose extraordinaire, la motion fut adoptée. C'était la première fois qu'un tribun de la plèbe, normalement inviolable et sacro-saint, voyait son pouvoir de veto ainsi écarté sur instigation d'un autre tribun de la plèbe. Cette innovation était une quasi-révolution. Ça signifiait que la plèbe pouvait à présent adopter à peu près n'importe quelle loi sans contre-pouvoir. Poussant la provocation, Tibérius se fit élire à la commission extraordinaire chargée de répartir les terres avec son beau-frère et son frère. Puis il se porta candidat à sa propre succession comme tribun de la plèbe, ce qui n'avait là encore jamais eu lieu. On saisit à l'audace et à la réussite de Tibérius quelle devait être sa popularité auprès de la plèbe et à quel point sa réforme devait susciter d'espoir. On imagine aussi l'effroi et l'indignation des oligarques conservateurs. Tibérius imagine des réformes de plus en plus ambitieuses et extrêmement populaires au sein de cette plèbe, dans une société qui se divise chaque jour davantage. Voici ce qu'écrit Appien dans l'histoire des guerres civiles de la République romaine, qui fait un peu foi sur toutes ces questions. Les propositions de Tibérius excitèrent principalement le mécontentement et l'animosité des riches. Ils ne pouvaient plus espérer tourner la loi comme auparavant. Aussi les voyait-on de toutes parts se réunir en particulier, se répandre en doléances. Les uns disaient que leur père était inhumé dans leur domaine. Certains montraient les dettes qu'ils avaient contractées en devenant propriétaires. On n'entendait que plaintes de cette nature, que clameurs mêlées d'indignation. Et de l'autre côté, les citoyens pauvres répondaient à toutes ces doléances que de leur ancienne aisance ils étaient tombés dans une extrême misère, que cette détresse les empêchait de faire des enfants faute d'avoir de quoi les nourrir. Ils alléguaient que les terres conquises avaient été le fruit de leurs expéditions militaires. Ils s'indignaient de se trouver privés de leur proportion, dans ces propriétés. En même temps, il reprochait aux riches d'avoir préféré à des hommes de condition libre, à leurs concitoyens, à ceux qui avaient l'honneur de porter les armes, des esclaves, engeance toujours infidèle et toujours ennemi de ses maîtres. Les sénateurs ont compris que là, les choses deviennent très graves. Ils n'ont pas l'intention du tout de se laisser mener. Ils vont mettre toute leur force de sénateurs dans ce combat. Tibérius souhaite être tribun pour l'année suivante. Eh bien, ils vont rassembler tous ses opposants au vote des tribuns. Ils auront pour meneur la personne de Scipion Nasica, qui est un membre de la même famille que Tibérius. On a fait exprès de prendre un parent, hein, qui se rend au comice et qui va lancer ses hommes dans la poursuite des partisans de Tibérius. C'est-à-dire que là, on est au bord de la guerre civile. Des dizaines de personnes vont être jetées du haut du Capitole. Les partisans des frères Gracques et notamment de Tibérius sont assassinés. Tibérius lui-même va être assassiné et son corps jeté dans le Tibre. Voilà comment finit la grande ambition de réforme et même de révolution de Tibérius. Mais je vous ai parlé des frères Gracques. Et oui, Tibérius a un frère, Caius. Et le plus jeune des Gracques a bien l'intention de venger son aîné. Respighi dans les Pins de Rome, cette fois par l'Orchestre Symphonique de Pittsburgh, sous la baguette de Laurine Mazel.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
10 ans après la mort de Tiberius en 122, voilà que son frère cadet se présente aux élections pour devenir tribun de la plaine, de la plèbe, pardon. Évidemment que la mémoire de son frère est encore dans tous les esprits. Il est élu facilement Caius. Les sénateurs sont très inquiets, ils ont raison, puisque maintenant c'est le programme politique d'il y a 10 ans qui va être développé. On peut en retenir 2 points. D'abord, l'amoindrissement du pouvoir du Sénat au profit des différents comices, et d'autre part, le second point, c'est une grande réforme agraire qui est exactement le développement des idées de Tiberius. Si l'on en croit Plutarque, une foule considérable se rassemble sur le champ de Mars pour acclamer Caius le jour de son élection. Il va aller encore plus loin que son frère sur de nombreux points. Par exemple, il voulait que tout citoyen romain reçoive chaque mois une ration de blé. Il voulait que Rome paie entièrement l'équipement des citoyens qui étaient appelés à devenir soldats. Je cite Asimov de nouveau. Il réforma aussi le système de vote à Rome pour donner plus de pouvoir au prolétariat et modifia le système fiscal dans les provinces et le système de contrôle des lois afin d'affaiblir le pouvoir du Sénat dans ces deux domaines. Caius améliora aussi les routes, lança un grand nombre de travaux publics, ça a permis de créer de l'emploi et d'améliorer la vie quotidienne. Il est tellement populaire maintenant, ce Caius, qu'il a réussi sans difficulté à se faire réélire l'année suivante, hein, en 121, alors que, rappelez-vous, son frère n'avait pas pu se faire réélire. Et l'aristocratie, cette fois, se demande ce que va devenir le tribun roi. Je cite Raphaël Dohan. L'autre innovation de Caius Gracchus était dans ce qu'on appelle à présent la communication. Tous les témoignages font état de son charisme exceptionnel, mais aussi de son habileté politique. Plutarque le décrit comme organisant des meetings aussi fréquemment que possible, où il rappelait à l'assistance les projets et le destin de son frère aîné massacré par l'aristocratie. Dans les assemblées, il utilisa pleinement l'innovation introduite peu de temps auparavant, qui consistait à parler en se tournant non plus vers le Sénat, comme le voulait la tradition, mais vers la foule du peuple. Nouveauté oratoire, lourde de conséquences symboliques. Caius est en train de réussir partout où son frère avait échoué, mais... Nous savons, nous, que ce genre de choses ne peut jamais durer bien longtemps.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Pas question pour le sénateur de laisser durer tout ça. Il a 30 ans, à l'époque, Caius, je ne vous l'ai pas dit. Dans un premier temps, ils vont user d'une autre stratégie par rapport à celle qu'ils avaient mise en place 10 ans plus tôt. Ils vont mandater un tribun du nom de Livius Drusus. Ils vont lui donner une mission, être encore plus radical que ne l'est Caius, afin de faire passer celui-ci pour modérer, ce qui va faire que la foule pourrait se détourner lui. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer, je cite Plutarque. Livius fit des lois qui, sans offrir aucun motif d'honnêteté ou d'utilité, n'avaient d'autre but que de surpasser Caius en complaisance et en flatterie pour le peuple, comme dans les comédies où les poètes rivalisent entre eux à qui divertira le mieux le spectateur. C'est terrible, ce qui se passe. Très intéressant, entre parenthèses, comme exemple, à méditer, si je puis dire. Livius va proposer de créer 12 colonies et dans chaque colonie, 3000 citoyens pauvres de la ville de Rome peuvent se rendre aux frais de la République et pour construire là-bas une nouvelle vie, quitter la misère dans laquelle ils vivent. Évidemment, Caius comprend bien qu'il est doublé sur sa gauche, si vous me passez l'expression. Il décide de quitter Rome, de se rendre dans la ville de Carthage, complètement en ruine, pour y fonder une de ses colonies. Et en son absence, le Sénat défait tout ce qu'il avait fait voter. On fait voter une loi qui ordonne le démantèlement de la colonie de Carthage. Carthage, où se trouve le plus jeune des Gracques. C'en est trop pour lui, il rentre à Rome, rassemble ses derniers partisans. Rome est sur le bord là du précipice, peut basculer d'un moment à l'autre dans la violence. Les partisans des deux camps se promènent les armes à la main. Le Sénat réplique en promulguant un Senatus Consulte qui autorise l'élimination de Caius par n'importe quel moyen. Il est devenu ce qu'on appelle l'ennemi public numéro 1, vous savez. Caius décide de quitter Rome à ce moment-là avec un esclave. Il se rend sur le Janicule, donc à l'ouest de la ville. Et là, que s'est-il passé? Il sera retrouvé mort quelques heures plus tard. Est-ce qu'il s'est vraiment suicidé? Est-ce qu'il a demandé à son esclave de le tuer? Est-ce qu'il a été trahi ou tout simplement, est-ce que ses ennemis l'ont surpris, suivi et massacré? Dans tous les cas, c'est la fin de l'aventure des frères Gracq. On est donc en 121 avant Jésus-Christ. Je cite pour finir Asimov, « La malheureuse Cornelia, dont les deux fils étaient morts, se retira dans son domaine près de Naples où, perdue pour le monde, elle consacra ses jours à la littérature. Après sa mort, l'inscription sur sa tombe ne mentionnait nullement qu'elle était la fille du grand Scipion qui avait vaincu Hannibal, mais seulement Cornelia, mère des Gracques. » Et la conclusion d'Asimov s'impose. « Avec la mort des Gracques, s'évanouissait le meilleur espoir de réformer Rome et de l'acheminer vers ce qui pouvait s'apparenter à notre démocratie moderne. Au Sénat, les conservateurs s'accrochèrent désespérément au pouvoir, se préparant à de croissants désastres. » Ça, c'est l'objet d'un autre chapitre de cette histoire passionnante de la République romaine.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci à Jean-Baptiste Galen de nous avoir fait voyager si loin dans le temps. Nous avons fait un bond de plus de 2000 ans, vous imaginez. Et nous retrouvons, en revenant en 2024, nous retrouvons, il va falloir s'habituer à le dire ça, nous retrouvons Christian Morin. Bonjour Christian.
Bonjour mon cher Franck. Alors vous n'êtes pas marqué par le temps, hein. Un bond de 2000 ans. Je peux vous dire que Franck Ferrand, dans sa vie de tous les jours, avec son emploi du temps très chargé, là le théâtre a été abandonné à la fin de l'année, mais peut-être que ça reviendra un jour.
Oui, bien
pourquoi
sûr.
Pas une petite tournée en France.
Mais moi, tout à fait, c'est
prévu.
Je verrai
ça de bon aloi pour les auditeurs de Radio Classique qui sont en province. Ne les oublions pas, nous en venons, vous et moi d'ailleurs. Franck, donc, je voulais dire, ne mène pas un train de sénateur. C'est pas lent. Son emploi du temps est assez rapide. Mon cher Franck, vous qui êtes amoureux de Versailles, si vous allez à Versailles avec quelques amis étrangers à qui vous auriez envie de raconter la Galerie des Glaces ou d'autres endroits encore,
ça peut arriver,
méfiez-vous,
oui.
Parce que hier, mon fils a eu une aventure peu commune. Il était avec ses beaux-parents qui sont d'origine brésilienne et c'est avec sa femme, ils se parlent en anglais. Et mon fils racontait un petit peu Versailles, la Galerie des Glaces, justement, en anglais. Il s'est fait interpeller par des guides qui lui ont demandé ses papiers, sa carte de guide, est-ce que ça n'était pas un guide clandestin?
Enfin,
Mais ça n'a pas été très agréable dans la façon dont ça a été fait. Donc je le dis, à Versailles, Madame Catherine Prégard peut-être surveiller le personnel pour qu'il soit un petit peu plus gentil ou élégant,
surtout en ce début d'année. Le personnel de Versailles, alors après la manière, ça je n'y étais pas, mais le personnel de Versailles est là pour faire respecter ce qui est ce n'est pas un privilège, mais c'est une exclusivité pour les conférenciers des musées nationaux qui sont les seuls à avoir le droit de parler dans le château, pour tout vous dire.
Mon fils n'était pas conférencier, je vous rassure, en tous les cas, sur ce point, voilà. Donc ça peut arriver, donc vous parlez à voix basse peut-être dans ce bel endroit qu'il faut visiter absolument.
Non mais on peut se parler entre soi, mais dès qu'on monte un peu la voix, ça m'est arrivé une ou deux fois, je dois le dire.
Ah oui,
parce que je ne suis pas conférencier des musées nationaux, moi non plus.
Mais on vous retrouvera avec plaisir cet après-midi. Alors on fait un bond dans l'histoire, là, après les sénateurs et les frères Gracq et Rome, eh bien, on part avec d'autres empereurs. Le dernier empereur de Chine, ce sera évoqué par Franck Ferrand à 14h cet après-midi. Bonne journée, mon cher Franck.
Bonne journée.